Merci Seigneur de nous conduire par ton Esprit Saint. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous fais, que tu nous donnes encore Seigneur, de parler de toi et de t'écouter Seigneur. Car c'est toi la vie, c'est toi la santé, c'est toi l'espérance, c'est toi la solution, ô Éternel. Viens nous assister dans le nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom au milieu de nous. Nous avons soif de ta présence, soif de ton amour. Nous avons soif de toi, Seigneur. Chaque jour, à chaque heure, c'est toi qui fais la différence. C'est toi qui sauves l'indigent, Seigneur, qui le sort de la poussière et le fait siéger avec les grands, Seigneur. Viens nous assister dans le nom tout-puissant de Jésus, Père, par ton Esprit Saint. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Je vais lire 1 Timothée 1,15. 1 Timothée 1,15. La Bible dit ceci. 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et c'est cette parole qui m'a encouragé parce que je ne m'estimais pas digne d'apporter la parole de Dieu devant la bonté, l'amour ou la grandeur de Dieu. L'homme est si petit et le Seigneur m'a relevé par cette parole qui dit qu'il est vraiment venu pour tout le monde, aussi petit qu'on soit, aussi vil qu'on se sente. Et je me souviens d'Ésaïe au chapitre 6. La Bible dit que Ésaïe, on lui a ouvert les yeux et il a vu la gloire de Dieu, dans Ésaïe 6. Et quand il a vu ça, il a dit, « Seigneur, mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple qui est impur. Je ne veux pas m'avancer près de toi. » Et la Bible dit qu'un ange a amené quelque chose dans la bouche d'Ésaïe pour purifier sa bouche, pour dire, « Ça y est, tu as la permission de travailler. » Et lorsque le Seigneur se révèle à toi, bien-aimé, peu importe ton poste, peu importe ton expérience, peu importe l'apparence que tu peux donner d'être plus fort ou plus pur que d'autres personnes, on est déstabilisé parce que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu est très grand. C'est quelque chose qui déstabilise et devant sa bonté, devant son amour, devant sa grandeur, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus parler de ta part parce que je ne suis pas au bon poste. J'aimerais mieux être à un autre poste que celui-là. Mais c'est le Seigneur qui décide et nous obéissons. Et il dit qu'il est venu, comme Paul le dit, Paul qui était si brillant, si pur, il dit, Jésus-Christ est venu pour moi le premier pécheur. Et donc nous acceptons de prêcher sa parole, non pas parce que nous pouvons faire cela, mais parce que c'est lui qui le permet. Et c'est pour cela que j'ose venir parler de lui. Et nous prenons Ésaïe 53, toujours dans cette même logique. Ésaïe 53. Nous allons parler des souffrances de Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Nous prenons le psaume 22. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, la honte des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu m'es réduit à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force. Viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. Alors, dans ces deux passages, l'un 700 ans avant et l'autre plus de 1000 ans avant, sont décrits les problèmes de Jésus-Christ. Les souffrances de Jésus-Christ sont décrites 1000 ans, 700 ans avant, par la personne de David. Et David parle d'une punition qui n'existait pas à son époque. Il dit qu'ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Il parlait de la crucifixion alors que la crucifixion n'existait pas encore à son époque. C'est Dieu qui lui montrait cette vision parce que la crucifixion est venue avec les Romains. C'est les Romains qui ont apporté la crucifixion. Et David parle déjà du fait qu'on a percé ses mains et ses pieds. Or, David n'a jamais été, on n'a jamais percé ses mains, on n'a jamais percé ses pieds. Il parlait par prophétie de celui qui allait venir, de Jésus-Christ. Il décrivait les souffrances du Seigneur. Il dit encore, il tire au sort ma tunique. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus-Christ a été crucifié. Les soldats ont tiré au sort sa tunique. Il dit encore, mon cœur fond. Il explique la crucifixion alors que lui ne l'a pas vécu. Et il n'allait pas la vivre. Il dit au verset 15, je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. C'est ce qui se passe quand on est crucifié. Quand on est crucifié, il y a tout le poids du corps qui descend, puisque bon, on est cloué, et ça donne l'impression que tu fonds de l'intérieur. Ça donne l'impression que tu fonds de l'intérieur, et les membres se désagrègent, donc les jambes, les bras, puisque c'est cloué, ça se désagrège, parce que tout vient, donc il y a le centre de gravité qui est au milieu, ben tout en poussant vers le bas, ça, les os se désagrègent. Et David n'a pas vécu ça, mais il explique déjà ça à l'avance, les souffrances de Jésus-Christ. Pourquoi notre Dieu, notre Père, a voulu que tout cela soit décrit déjà à l'avance? Parce que Dieu accorde à ça une très très grande importance. Une très grande importance. 700 ans avant, plus de 1000 ans avant. Et ça, ce n'est que quelques exemples. Mais il y a d'autres exemples où c'est décrit que Jésus-Christ sera trahi par celui avec qui il mangeait. C'est déjà écrit dans l'Ancien Testament. Il y a un autre exemple où c'est écrit qu'il sera vendu par 30 pièces. Les 30 pièces de Judas, c'est déjà écrit dans l'Ancien Testament. Je crois dans le livre de Zacharie. Donc les souffrances de Jésus, la trahison, tout cela, le fait que tout le monde le renie, tout cela a été déjà décrit à l'avance parce que ça a une très 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 grande importance. Très très grande importance. Bien-aimés, on a souvent l'habitude de dire « Jésus est mort pour nous à la croix » et c'est devenu comme une formule magique, c'est devenu comme une sorte de formule chimique. Bien-aimés, ce n'est pas une formule chimique, ce n'est pas une formule magique. C'est la réalité. Le Seigneur, nous voyant perdus, notre Père, nous voyant perdus dans le péché, il ne pouvait que nous condamner, nous juger et nous condamner. Mais son amour refusait cela. Dans son amour, il a décidé de nous sauver. Mais il ne pouvait pas nous sauver en dépit de ses règles à lui-même, au détriment de ses règles à lui-même. Il fallait que ses propres règles s'appliquent. Puisque Dieu est juste, il fallait que sa justice s'applique. Donc il ne peut pas, c'est comme si tu étais juge. Et qu'on te dise, ben ta fille a tué un homme. Mais c'est pas parce que tu es juge que tu as le droit de dire que elle sera pas condamnée. Pas du tout. Elle sera jugée. Et tu vas appliquer le code pour elle comme tu appliquerais pour quelqu'un d'autre. Donc Dieu n'avait pas le droit de dire, ben, puisque je suis Dieu, même s'ils ont péché, je les sauve quand même. Non, il n'avait pas ce droit-là, parce qu'il a des codes, il avait, dans sa justice, il y a des codes, sinon il n'est plus juste. Quand vous allez dans un pays où, lorsque vous volez, on vous vole, on vous casse la jambe, et la personne qui vous vole ou qui vous casse la jambe s'en sort sans problème avec la justice, qu'est-ce que vous direz? Que c'est un pays bananier, c'est un pays désordonné, c'est un pays où c'est la loi de jungle, de la jungle qui l'emporte. Vous direz que c'est un mauvais pays. Et donc Dieu, dans sa justice, il ne peut pas dire, bon, même si l'homme a péché, je le sauve. Non, ça ne suffit pas de vouloir sauver l'homme. Il fallait que sa justice s'applique. Il fallait que l'homme paye. Parce que Dieu, pour lui, que ce soit un petit péché ou un grand péché, c'est pareil. Il fallait que l'homme paye. C'est pourquoi Dieu était bloqué. Et la solution qu'il a trouvée, c'était que son fils paye à notre place. C'est ça la solution. Ce n'est pas une formule chimique, ce n'est pas une formule magique que Dieu a arrangée pour dire « Je les sauve par les souffrances de Jésus ». Non, c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. Pour que nous soyons sauvés, il fallait qu'on paye et quelqu'un a payé à notre place. Et Ésaïe 53 est clair. Le psaume 22 décrit les souffrances sans expliquer pourquoi. Ésaïe 53 nous explique pourquoi. Il nous explique que l'iniquité de nous tous est retombée sur lui, Jésus. Ésaïe 53 nous explique que nos problèmes, nos maladies ont été mis sur lui, Jésus-Christ. C'est à cause de ça qu'il a souffert ainsi pour porter nos péchés en priorité et porter les conséquences du péché sur lui. C'est à cause de ça, parce qu'il fallait du donnant-donnant. Il fallait que il paye par rapport à cela. Bien-aimés, si nous ne communions pas avec ces souffrances-là, nous ne pouvons pas bien connaître le Seigneur et nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne de victoire. Pour vivre une vie chrétienne de victoire, nous devons communier avec les souffrances de Jésus. Les connaître, les réaliser et les expérimenter dans nos propres vies. C'est la condition pour vivre une vie chrétienne libérée. Quelqu'un qui ne connaît pas les souffrances de Jésus ne peut pas vraiment se sentir sauvé comme il faut. Parce que, bien aimé, le salut est trop facile. Donc qu'on te dise, mais crois au Seigneur Jésus et tu es sauvé. C'est trop facile pour tout ce qu'on a fait. Et j'ai parlé avec un frère qui m'a dit, moi-même si je reste pur toute ma vie, je trouve que ce n'est pas suffisant pour avoir mon salut. Le salut est trop grand. Je trouve que je ne le paye pas suffisamment. Moi j'ai dit, mais justement, c'est ça qui gêne. La facilité du salut gêne. Donc pour bien accepter le salut, tel qu'il nous est donné facilement, il faut bien comprendre qu'il y a eu du donnant, du non-donnant. Ça n'a pas été un cadeau pour, Dieu qui décide, bon, je les sauve. Non. Quelqu'un a payé. Donc, il ne faut pas que tu penses que tu n'as pas payé. Tu as payé. Tu as payé. Quand Jésus te sauve, il faut te dire que, ben, le fait que je m'unis à Jésus, j'ai payé. Puisque Jésus-Christ a payé à ma place, mais avec moi. Quand Jésus-Christ payait tout cela, il était uni par anticipation à tous ceux qui allaient croire en lui. Aujourd'hui, quand tu es sauvé, ne crois pas que c'est un papier sur lequel Dieu a mis ton nom. Il a décidé que tu sois sauvé, il met ton nom et c'est tout. Non, il a d'abord payé lui-même Dieu. Il a payé la facture. Il a payé la facture. C'est comme si un huissier vient te dire, ben, monsieur, vos dettes sont finies. Pourquoi? Parce que votre cousin a tout payé. Voilà. Vous n'allez pas dire au huissier, mais je ne crois pas, tu es trop gentil. Non. Mon cousin a tout payé. Ah, merci mon cousin. Merci. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ étant sûr qu'il a tout payé, il disait à ses disciples, priez en mon nom. mon Père ne peut pas résister à mon nom. J'ai tout payé. Si vous lui dites mon nom, il va vous donner ce que vous demandez. J'ai payé. Ça n'a pas été, bien aimé, seulement un stylo qui écrit. Non. Il y a eu une vie qui a payé pour les péchés de toute l'humanité. Jésus-Christ a porté les péchés de toute l'humanité. Jésus-Christ a porté les souffrances de toute l'humanité. Mais comment tu peux comprendre cela? C'est la réalité. On voit ces souffrances. La Bible nous le dit dans Ésaïe 53, nous l'explique. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible nous l'explique. C'est par ses meurtrissures. Et la Bible dit dans Matthieu que, dans Matthieu 8, vers le verset 17, la Bible dit quand Jésus guérissait les malades, la Bible dit que c'est en fonction de ce qui a été écrit dans Ésaïe 53, il était chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bien-aimés, il y a eu un acte qui a été fait concrètement. Vous savez, quand vous allez chez le médecin vous donne des médicaments. Et ces médicaments-là, vous n'en êtes pas sûr à 100%. Parce que parfois, on prend une cure, ça ne marche pas, on change. Dieu ne nous a pas sauvés à la manière des médicaments. Il ne nous a pas donné un médicament. Soyez sauvés. Non. Son Fils a pris le microbe qui était en nous, il l'a mis sur lui. De sorte qu'on ne peut même plus parler de maladie puisque tu n'as plus le microbe. Quand tu donnes les médicaments, les microbes sont encore là. Tu les prends, ils luttent avec les microbes jusqu'à les éliminer. Et puis, bon, parfois même, ça ne finit pas totalement. Il reste un reliquat et puis bon, mais comme ce n'est qu'un petit nombre, tu n'es plus malade. Mais Jésus-Christ a payé. Il a pris le microbe, il l'a mis sur lui. C'est ça qui fait la différence, bien-aimé. Il a pris ça sur lui. Ce n'est pas un don, d'écrivain, non. C'est un don concret, réel. Il a pris ça. Il l'a mis sur lui. Et quand on pense à cela, on n'a pas honte d'être sauvé. Quand on pense à cela, on peut se permettre de venir auprès du Seigneur, lui demander quelque chose, avec assurance, comme c'est écrit dans Hébreux 4, 16. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé la dette. Bien-aimés, remarquez quand Jésus-Christ était vivant. Quand il voyait les hommes mauvais, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur pardonnait leurs péchés. Quand il a vu la femme surprise en flagrant délit d'adultère, il a dit, femme, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Mais la femme n'a pas demandé, mais pourquoi? La raison est simple, c'est que Jésus-Christ savait qu'il allait prendre le péché de cette femme. Donc du moment qu'il a enlevé le péché de cette femme, cette femme ne pouvait plus être condamnée. Jésus-Christ dans Marc chapitre 2, on l'amène un paralytique. Quand il voit le paralytique, il dit, mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Les gens disent, mais pourquoi ose-t-il pardonner les péchés? Dieu seul peut le faire. Mais Jésus-Christ avait ce courage-là parce qu'il savait que c'est lui qui allait les porter. Il allait les prendre et les mettre sur lui. C'est pourquoi il pouvait dire à la maladie, lâche! Parce qu'il a déjà pris ça. Il allait prendre ça. C'est pourquoi il pouvait dire aux esprits mauvais, lâchez prise! Parce que la force des esprits mauvais, c'est le péché. Puisque Jésus-Christ savait qu'il allait prendre tous les péchés des humains, il avait donc autorité sur ceux qui régnaient à cause du péché. Lâchez prise! Et il lâchait automatiquement prise! Il n'avait pas le choix, parce qu'il connaissait la vérité. Il connaissait la vérité. C'est comme si toi, tu montres à ton huissier, tu dis, voilà, le reçu, comme ma dette est payée. Tu lâches mes meubles, tu t'en vas vite. Voilà. Il s'amène avec des policiers, même s'ils sont 1000. Ils viennent prendre tes meubles, tes voitures ou bien tes télévisions. Tu prends le reçu qui montre que ton cousin a payé ta dette. Tu dis, voilà, vous êtes 1000, mais moi, je n'ai que ce papier-là. Le reçu de la dette qui est payée. Vous vous en allez. Parce que la dette a été payée. Bien-aimé, vous savez, quand on à un moment, quand on s'approche... chaque année plutôt, il y avait une pratique en France qu'on appelait la grâce présidentielle. Dans d'autres pays même, il y en a aussi. Donc le président peut relâcher des condamnés. Mais Dieu ne nous a pas sauvés comme ça. Il ne nous a pas sauvés comme ça. Pour que ça soit pareil que le salut de Dieu, il fallait que si Chirac, par exemple, disait « Je relâche tel condamné », il fallait qu'il mette d'autres à sa place. Innocents, bien sûr. Hein. Il fallait qu'il prenne des innocents, qu'il mette à sa place. Ah oui, Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'il est président. Il dit « Mais je te fais grâce, quitte la prison. » Non. Son propre fils a pris ta place. Bien-aimé, c'est ce qui rend notre salut solide. C'est ça qui rend notre salut solide, parce que ce n'est pas, je ne sais pas comment expliquer ça, ce n'est pas un échange des diplomates où on vient, on dit bon, on calme, on arrête la guerre, et voilà, on vous donne 1000 euros, vous nous donnez 2000 bananes. Non, bien aimé, c'est un échange direct. Donc Jésus prend ta place, il paye à ta place, ce qui fait que ton salut est véritable et total. Et Jésus-Christ avait ce courage, cette force-là de marcher contre la maladie, contre le péché, parce qu'il savait qu'il avait pris. Et il avait ce courage, cette force-là, d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller dire aux gens, ça y est, c'est réglé, parce que lui-même avait pris ça. Il a pris ça sur lui. Et quand il voyait quelqu'un mentir, il n'était pas si émotionné que ça. Il savait qu'il a pris ça sur lui. Donc quand il regardait les hommes, il ne pensait qu'à les sauver. Quelle différence avec nous. Lorsqu'on regarde les faiblesses des autres, un sujet de commentaire dans nos cerveaux. Mais Jésus-Christ, lui, ne pouvait pas juger parce que lui, il prenait. Il te voit avec le mensonge, il prend. Il savait qu'il allait prendre. L'esprit pour tuer les gens, lui, il voit que tu as tué des gens, il prend ces péchés-là, il met sur lui. Mais c'est normal après qu'il ne te condamne pas. Puisque lui, il a pris ça, bien-aimé. C'est normal. C'est comme si tu voyais quelqu'un qui pêche, qui injurie quelqu'un d'autre. Alors tu te sens comme si c'est toi qui injurie. Tu ne vas plus condamner la personne qui injurie. Parce que, en quelque sorte, tu as pris sa place. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout faire pour que la personne qui injurie arrête de le faire et entre dans une nouvelle vie. La Bible est claire, nous explique ça dans Jean 3, 17. Nous allons lire Jean 3, 17. Nous avons l'habitude de lire Jean 3, 16. Là, nous allons lire Jean 3, 17. Mais bien sûr, nous allons clôturer par Jean 3, 16. Car c'est ça le message. Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé le Fils pour te condamner. Il a envoyé, c'est vrai, pour te dévoiler déjà ton péché. C'est ça sa fonction de lumière. Et c'est ça qui nous gêne. Pourquoi? Lorsque le péché est dévoilé, on se dit, oulala, je suis ainsi. Je ne suis pas beau, je ne suis pas à la hauteur, je suis zéro. Et comment peux-je faire pour me sauver? Comment? Et on a nous tous un arrière-fond de religion qui nous fait croire que, en faisant certains bons actes, c'est là que Dieu va nous apprécier. Or, Dieu a envoyé son Fils pour prendre les péchés et mettre sur lui et nous communiquer une nouvelle vie. Nous devons accepter ce cadeau gratuit du salut. C'est d'abord gratuit. Donc, on commence par la gratuité. On commence par nous donner d'abord le pardon. Ensuite, on nous demande de vivre une nouvelle vie. On commence d'abord par nous transformer de sanglier à aigle, Ensuite, on nous demande de voler dans les hauteurs. C'est ce que le Seigneur fait, bien-aimé. C'est pourquoi Paul a dit, c'est une chose certaine et digne d'être reçue, que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. C'est une chose certaine que personne ne soit déstabilisé par le péché, que personne ne soit déstabilisé par ses faiblesses, que personne. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris ça sur lui. Il a pris ça sur lui. La maladie génétique ou tout ce que tu veux, il a pris ça sur lui. Le péché, il a pris ça sur lui. Ce n'est pas un cadeau de grâce présidentielle à la manière des humains. Ce ne sont pas des arrangements diplomatiques, c'est du donnant-donnant. Du donnant-donnant. C'est clair. Ça a été gratuit pour nous, mais ça n'a pas été gratuit pour Dieu. Dieu a payé. Puisque Dieu a payé, pourquoi faut-il que je paye encore moi? Pourquoi? Puisque Dieu a payé. Je n'ai qu'à recevoir gratuitement ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça qui est merveilleux. Et quand on est conscient de ça, on peut dire, au nom de Jésus, maladie, tu t'en vas. Mais quand tu dis au nom de Jésus, comme si c'était une formule chimique, ah, tu peux toujours crier 100 fois. Mais quand tu dis au nom de Jésus, tu sais ce que Jésus a enduré. Tu sais ce que Jésus a fait. Le démon ne peut pas résister. Rien ne peut te résister parce que tu sais ce que Jésus a fait. C'est pourquoi Paul disait dans la parole, il dit, je veux, dans Philippiens 3, je veux connaître les souffrances de Jésus, communier avec ses souffrances, afin que je parvienne à la puissance de la résurrection. Aujourd'hui, nous vivons la mort parce que les gens ne connaissent pas les souffrances du Seigneur. Ils veulent vivre, faire des exploits, mais ils ne connaissent pas les souffrances du Seigneur. Si tu ne connais pas les souffrances de Jésus, tu n'auras pas en toi des puissances de braver le mal. Tu n'en auras pas. Parce que ta conscience te reprochera toujours que tu es imparfait. Ta conscience te reprochera toujours que tu ne mérites pas. Ta conscience te reprochera toujours. Et donc tu as besoin de savoir que non, mais ton Seigneur a pris sur lui tout ça et qu'aujourd'hui tu peux vivre une vie nouvelle parce qu'il a pris ça. Tu as besoin de connaître les souffrances de Jésus. Posons-nous la question, pourquoi Jésus ressuscité, tout son corps n'a pas été refait. Il est resté les trous. La résurrection, nous quand on ressuscitera, il n'y aura pas de cicatrices, il n'y aura pas de trous. Mais seulement pour lui, les trous sont restés. Parce que ces sont les marques de victoire. Il ne pouvait pas les effacer. Parce que c'est ça qui fait sa gloire. Ce sont ces trous-là. Ce sont ces blessures. Ce sont ces meurtrissures qui font notre victoire. Ça n'a pas été effacé. Mais nous, quand on ressuscitera, tout sera effacé. On aura un cœur nouveau. Bien-aimé, Philippiens 3, l'apôtre dit ceci. Verset 10, je peux commencer même au verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Je connaîtrai la communion de ses souffrances. J'en ai besoin pour que ma foi grandisse, parce que mon salut ne dépend pas de mes œuvres, mais dépend de ma foi en ce que Jésus a fait pour moi. Si je suis ignorant de ce que Jésus a fait pour moi, ma foi sera pas suffisamment grande. Comme le frère me disait, mais je ne comprends pas que Dieu m'autorise à faire telle chose alors que je m'estime tellement mauvais. Moi je dis, mais non, mais est-ce que tu as commis des péchés? Non, mais je sais en moi que je ne suis pas... Moi, j'ai dit, mais Dieu a porté tes péchés. Jésus a pris tes péchés. Et aujourd'hui, si tu connais ce qu'il a enduré, si tu connaissais, mais tu ne vas plus te plaindre de toi-même. Tu diras, mon Sauveur a payé le prix pour moi. C'est cette connaissance qui manque à beaucoup, qui fait de nous des chrétiens boiteux. Pourquoi? Parce qu'on ne fait qu'entendre des messages de puissance. Il faut prier 50 jours, comme ça tu seras puissant. Il faut prier autant. Donc on ne fait qu'entendre des messages qui valorisent l'homme. Qui valorisent. Et c'est pourquoi nous-mêmes, on cherche toujours des valorisations en nous. Dieu nous dit, mais non, que vous, c'est le mauvais chemin. L'apôtre Paul dit, là, on vient de lire, il a dit, je ne cherche pas à être trouvé juste par la loi, c'est-à-dire par les choses que moi je vais faire. Non, je vais être trouvé juste par la foi. Mon niveau de foi, c'est ce qui me purifie. Plus je crois en ce que Jésus a fait pour moi, plus je suis tranquille. David croyait. Plus il croyait, plus il était fort devant les ennemis. Saül ne croyait pas, plus il ne croyait pas, plus il était faible devant les ennemis. Notre force ne vient pas de ce qu'on ferait d'extraordinaire, ni de solide, vient de ce que nous croyons que Jésus a fait pour nous. Plus tu connais les souffrances de Christ, plus tu communies. Connaître, ce n'est pas seulement en lisant comme ça, ben Jésus a souffert, il a lieu de... non, on l'a frappé, on l'a... C'est déjà le début, c'est très bien. Mais tu vas expérimenter ça aussi. Tu vas expérimenter. Vous savez, quand on a lu l'Ésaïe 53, on dit que nous l'avons rejeté, nous l'avons considéré comme puni, alors que c'est nos péchés qu'il portait. Toi aussi, tu vas vivre ça. Les gens que tu veux sauver, ils vont t'injurier d'abord. Les gens que tu veux sauver, ils vont te parler mal. Les gens que tu veux aider, ils vont t'escroquer. Tu vas comprendre, tu vas communier. Et pendant que tu vas vivre ces choses-là, tu vas dire, ah, c'est donc ça que Jésus faisait pour moi. Donc, bien-aimé, et quand tu te retrouves face à un démon, tu le prends à la main, tu le jettes à la poubelle avec une telle force parce que tu sais ce que, tu comprends maintenant ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Donc, il n'a qu'à fuir même avant que tu parles, quoi, bien-aimé. Tu es animé d'une colère, tu sais que ces gens-là, ben, écoutez, Jésus-Christ a déjà tout payé, hein. Vous n'avez pas le temps de perturber la Normandie. Vous lâchez prise au nom de Jésus-Christ. Et quand tu vas intercéder avec une telle puissance, avec une telle foi, parce que tu sais que tu es en train de demander quelque chose qui t'est acquis. C'est à toi. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Jésus-Christ, quand il marchait, il prenait seulement. Maladie là-bas, il prend sur lui. Problème, il prend. Il dit, tout ça, je vais prendre. Allez. Et il y a une femme, pour vous montrer sa bien-aimée, une femme qui souffrait. Depuis 12 ans. Pendant 12 ans. Lorsqu'elle a touché Jésus, vous savez, elle a été guérie instantanément. Qu'est-ce que Jésus a dit en ce moment-là? Jésus a dit, j'ai senti que quelque chose est sorti de moi. Bien-aimé, Jésus n'a pas guéri les gens comme nos présidents aujourd'hui disent. Ils arrivent quelque part, ils voient des gens sales, ils disent prenez-les, nettoyez-les. Lui-même, il reste dans sa Mercedes, dans sa limousine, il dit nettoyez-les, donnez-leur de la nourriture. Non! Jésus-Christ est venu, lui-même, il est entré là où c'est sale là. Il lave la personne, il le met propre. Pendant que lui, il rend la personne propre, lui-même, il devient sale. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a pris afin qu'il soit suffisant, qu'il prenne tout ce qui est du monde pour qu'il soit crucifié, pour qu'il soit condamné à notre place. Quand on sait tout ça, bien-aimé, qui peut te décourager? Qui peut le faire? Parce que Jésus-Christ a pris cela. Qui peut le faire? Qui peut dire, tiens, ce territoire-là, ça nous appartient, nous les magiciens? Qui peut dire ça? Comme en Indonésie, les frères sont arrivés quelque part, c'est un village où de A à Z, quoi, donc tout l'alphabet, toute la population, c'était des magiciens, et avec leur chef du village, un grand magicien encore. Ils viennent annoncer Jésus, ils disent, mais on n'en a pas besoin. Les chrétiens disent, si, vous en avez besoin, sinon vous êtes perdus. Oh non, non, nous, nous sommes puissants, on n'en a pas besoin. Eh bien, le chrétien dit, ben, réunissez-vous tous au centre du village, on va juger de cette affaire-là. Savoir qui est le plus puissant. Et le chef du village, avec tous ses collègues, les magiciens du village, ils se réunissent tous au centre du village. Bon, les chrétiens s'élèvent et disent, bon, nous commandons aux démons qui sont dans ce village de s'en aller au nom de Jésus-Christ. Et puis, ils s'assoient, ils commencent à chanter. Bien-aimé, le chef du village a commencé à transpirer. Et il a dit, je vais me convertir à Jésus. On lui a dit, les chrétiens ont dit, mais pourquoi? Parce que je vous ai vu, quand vous avez dit que nous chassons les démons, je les ai vus plier les bagages et s'enfuir. Et ils criaient, ils disaient, Jésus ne veut plus de nous ici, bien-aimé. Là où ils sont, c'est parce que Jésus les laisse. Quand Jésus décide qu'ils ne sont plus là, ils s'en vont automatiquement. Parce qu'ils ne peuvent pas résister, parce qu'ils savent que Jésus-Christ a réglé la question du péché. Il a pris ça sur lui. Tu vas dire quoi? Il a pris ça sur lui. Tu vas lui dire quoi? Nous encore, on peut nous tester. Comme s'il y a des gens qui ont dit, nous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Oh, les démons ont dit, donc vous ne connaissez pas bien l'affaire. Ils les ont tapés. On voit ça dans la Bible. Nous encore, on peut nous tester. Au nom de Jésus, les démons vérifient si tu connais vraiment ce Jésus-là. Ah, il ne connaît pas un aventurier. Résistance, bien-aimé. Mais quand ils sentent que tu connais tes droits, bien-aimé, ils plient leurs bagages, ils disent, là, ça devient chaud pour nous. Est-ce que c'est toi qui es fort? Non. Mais tu connais Jésus. Tu connais les souffrances de Jésus. Tu sais ce qu'il a payé pour toi. Comme tu le sais, tu amènes ta facture, le reçu. Tu dis, voilà le reçu. Jésus-Christ a payé pour moi. Bien-aimé, communier avec les souffrances de Jésus-Christ va te rendre fort, mais alors que normalement tu croirais que ça va te rendre faible. Non, ça va te rendre faible pour t'humilier, mais ça va te rendre fort. Ta foi va être renforcée, ta connaissance de Jésus va être renforcée et tu ne seras plus le même. Parce que Jésus-Christ a souffert, il a pris les péchés sur lui. Il a pris par ses maîtrises sur tes problèmes, tes maladies, il a pris ça sur lui. Jésus avait un contrat avec le Père. Je vais les voir sauvés, c'est écrit dans Hébreux 12. La Bible dit qu'il a accepté toutes ses souffrances dans la joie de nous voir sauvés. Dans la joie de nous voir sauvés. Il a fait ce contrat avec Dieu. Je veux les voir sauvés. Dieu a dit, mais tu connais le problème. Jésus a dit, bon, je vais payer le prix à leur place. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé à la croix, il a dit, lorsque tout est fini, toutes les cérémonies qu'on devait lui faire, parce que tout ce que Jésus a subi, c'est écrit. Hein? Même qu'on allait lui donner le vinaigre, tout ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Donc, il fallait qu'il subisse tout ça. Ça faisait partie du contrat. C'est pourquoi, bien aimé, un contrat est toujours écrit à l'avance. Hein? Toujours à l'avance. L'Ancien Testament, c'est le contrat pour le salut de l'humanité. C'est écrit déjà à l'avance. Mais il fallait que qui signe ce contrat? Jésus. Il fallait qu'il dise, bon, d'accord. La loi de Dieu, la voilà. D'accord. Les hommes, puisque Dieu dans l'Ancien Testament, il montre que les hommes sont perdus. Ils sont mauvais, il s'est choisi qu'un seul peuple. Et même ce peuple, il montre dans l'Ancien Testament, il est perdu, il est mauvais. Donc il condamne tout le monde. Mais il donne en même temps ses lois. Il donne aussi la façon dont on peut être sauvé. Il faut tuer un animal, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la place. Donc Dieu a fait un contrat qu'on appelle l'Ancien Testament. Et ce contrat devait être signé par quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'était le Fils de Dieu. Il a pris le contrat, il a dit, d'accord, je vais le signer. Mais ce n'est pas avec le stylo qu'on signe ce tel contrat. Il fallait qu'il prenne la place de l'agneau qui devait payer à la place des autres. C'est pourquoi quand il est venu dans le monde, Jean a eu la révélation. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Donc il allait prendre le péché de l'humanité. Et quand Jésus-Christ est descendu, il a dit, ça y est, le compte des forces des ténèbres est réglé. C'est elles qui s'accrochent aux gens pour les ennuyer, les embêter. Leur compte est réglé. Je vais payer de ma propre vie. On a lu dans Isaïe 53, il a donné sa propre vie. C'est bien écrit, ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est ce qui est écrit dans l'Ancien. Dans Jean 10, Jésus dit, je donne ma propre vie. Dans Ésaïe 53, on dit, il a donné sa propre vie. C'est lui-même. C'est un contrat. Il a signé le contrat de payer le prix à la place des humains. Et dès qu'il a signé ce contrat, tous nos comptes ont été crédités. Au moment où Jésus-Christ a crié, tout est accompli, eh bien, le compte de tout humain a été crédité. C'est-à-dire que, alors qu'on était débiteur à cause de nos péchés, débiteur à cause de nos faiblesses, nous sommes passés de débiteur à créditeur. Et notre crédit se trouve auprès de qui ? Auprès de Dieu. Nous pouvons appeler Dieu et dire, dans mon compte, sors-moi telle chose, la guérison. Dans mon compte, sors-moi la pureté. Je suis fatigué pour le moment. Dans mon compte, sors-moi l'adoration. Je commence à devenir orgueilleux. Dans mon compte, donc Jésus-Christ a dit, tout est accompli, donc tous nos comptes ont été crédités. Donc le jour où tu crois en Jésus, on te donne le numéro de ton compte. Maintenant, tu peux en disposer. Bien-aimé, tu entres dans la vie, le compte rempli déjà. Alors que dans la vie d'aujourd'hui, ton compte va se remplir quand tu vas mourir. Donc quand tu as fini d'acheter la maison, tu as fini d'acheter la bonne voiture, quand tu as tout fini, c'est là que tu meurs. Mais avec Jésus-Christ, c'est quand tu commences que tu es riche. C'est quand tu commences avec un compte rempli, crédité. Parce que Jésus-Christ a pris tes péchés, il a réussi son contrat et notre papa, en échange, devait créditer nos comptes. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, demandez à mon Père, à mon nom. Ne vous présentez pas comme ça. Dites, nous venons au nom de Jésus. Parce que si vous vous présentez comme ça, il risque de dire, mais il y a des problèmes dans vos vies. Il dit, oui, d'accord. Parce que la Bible dit, on a un accusateur qui est sans cesse auprès du Père pour dire, tu veux exaucer, mais tu ne vois pas que... Maintenant, quand toi tu te présentes, tu dis, bon Seigneur, je sais que je suis un foutard, mais... Il y a un champion qui est mort pour moi à la croix. Je suis un footeur, un petit défenseur. Mais il y a un grand numéro 4, numéro 5 qui est mort pour moi à la croix. Et moi, je viens réclamer sa justice à lui, en ma faveur. J'ai un compte parce que je lui ai confié ma vie. Donc, dans mon compte, Seigneur, renvoie-moi la justice. Dans mon compte, renvoie-moi la paix. Bien-aimé, c'est ce qui s'est passé. Et beaucoup ne le savent pas. Ils sont là à se triturer. Ah, comment je vais devenir quelqu'un qui prie beaucoup? Comment je vais devenir quelqu'un qui est sage? Comment je vais? Non, bien-aimé, Jésus-Christ a tout accompli. Tu n'as qu'à t'humilier, demander pardon pour tes péchés. Décider de vivre ton compte, l'héritage que le Seigneur a décidé pour toi. Et automatiquement, ton compte, tu vas le vivre. Maintenant, on va dire, mais pasteur, mais certaines choses, on le demande, ça dure. Eh bien oui, on va vérifier si réellement tu crois que ton compte est là, quoi. Parce que tout est lié à la foi. Est-ce que tu le crois vraiment? Beaucoup veulent que la foi instantanée. Nous le savons tous. Le café instantané, les nourritures fast-food, tout ça. Ça rend gros. Les bonnes nourritures, on prend du temps pour les préparer. Et Dieu va vérifier si tu crois vraiment. Tu t'imagines, avant d'aller avant de demander de l'argent à ton compte, tu arrives chez le guichetier, tu lui dis, est-ce que je peux voir combien il y a dans mon compte? Il te dit, tu as 10 000. Et puis tu demandes, bon, donne-moi 1 000. Il te dit, non, je ne peux pas. Oh, mais tu peux donner un coup de poing sur la table. Comment ça, tu ne peux pas? Tu m'as dit qu'il y a 10 000. Donne-moi 1 000. Il dit, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Appelle-moi le directeur. Je ne comprends pas cette situation. On vient de vérifier, j'ai 10 000. Pourquoi on ne me donne pas 1 000? Ah non, le directeur n'est pas... Écoutez, monsieur, je ne sors pas. On a vu des gens faire des scandales. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils avaient raison. Quand on a raison, on ne lâche pas l'affaire. Appelez-moi les directeurs. Ah non, monsieur Rift, on va appeler la police. Appelez. Parce que vous savez quoi? Parce qu'on a vérifié que c'était 10 000 dans le compte. Appelez la police. Combien de gens n'ont-ils pas souhaité? Bon, appelez la police. Parce qu'ils savent qu'ils ont raison. Quand on a raison, on va jusqu'au bout. Et Dieu va vérifier si nous croyons vraiment que Jésus-Christ est mort pour nous. Si vraiment nous croyons, parce que tout est lié à la foi. L'apôtre Paul nous l'explique bien dans Philippiens 3. Il dit, je ne cherche pas à être trouvé juste par des actes que je veux faire qui vont me faire de moi un champion. Je cherche à être trouvé juste par la foi que j'ai de ce que Jésus a fait pour moi. Plus je le crois, plus ça marche à ma faveur. Plus je le crois, plus mon compte, je vais le vivre réellement. Parce que je ne lâcherai pas tant que je vis ce qu'on vient de me dire qu'il y a dans mon compte. Parce que je le crois. Mais si tu hésites, tu dis, oh, tu demandes, dans mon compte, il y a combien? On te dit, il y a 10 000. Tu commences à réfléchir, oh, mais moi, je n'ai jamais touché plus de 2 000. Moi, je n'ai jamais, oh, mais ça vient d'où? Et quand tu vas demander, est-ce qu'on peut me donner 1 000? Non, on ne peut pas. Tu dis, bon, c'est vrai, parce que ces 10 000 là, je ne comprends pas d'où ça vient. Je m'en vais. Voilà! Mais quand tu sais que c'est le cousin d'Amérique qui a envoyé, ah, oh, bien-aimé, on va appeler les États-Unis, hein. Appelez! Il vient de me dire au téléphone. Et ça ne doit durer que 10 minutes la transaction. Et tu es là comme un patron. Voilà. Parce que tu sais, le cousin ne ment pas. Il est millionnaire, donc ce n'est pas 10 000 qu'il va. Il ne va pas mentir pour 10 000. Bien-aimé, plus tu connais ce que Jésus-Christ a fait, plus tu es fort. Plus tu vas l'adorer, plus tu vas dire, Seigneur, merci. 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 Tu ne vas pas chercher des hauts titres parce que tu sais que toi, tu n'es rien. C'est le Seigneur qui a tout fait. Plus tu connais cela, plus tu seras calme. Tu seras humble, mais fort face aux forces des ténèbres. Fort dans les projets de Dieu parce que tu sais que le compte est crédité. C'est mon compte. Oui, je l'ai hérité. Je ne l'ai pas gagné. Je l'ai hérité. Mais c'est à moi. Qui a déjà dit que son héritage n'était pas à lui? Qui a déjà dit ça? Je dis, bon, vous héritez 10 millions de votre père. Oh. Donc comme ce n'est pas à moi, on m'a donné comme ça, bon, je donne aux pauvres. Qui a fait ça? C'est à moi. D'ailleurs, il y en a même qui font des projets sur l'héritage avant. Avant la mort des parents, fais quelques petits calculs. Ce problème-là de voiture qui traîne là, bon, dans plus ou moins 10 ans, mon père va mourir, on va régler ça, bien-aimé. Parce qu'il sait que ça sera à lui. Il regarde la C6 du père et dit, bientôt. Parce qu'il sait que ça sera à lui. Pourquoi nous, on aurait honte de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ? Pourquoi? Le diable, elle est là pour dire, non, vous ne priez pas suffisamment. Je lui dis, ce n'est pas ton problème. Ce qui est sûr, c'est que Jésus-Christ a prié suffisamment. Et donc, il va nous rendre des prières suffisantes, bien-aimés. Il va nous transformer. Si aujourd'hui, je ne priais pas suffisamment, ben si c'est de ma faute, je demande pardon. Mais mon compte est crédité. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prier. Voilà. Mais il y en a qui sont là, mais ah, pendant 5 ans, 10 ans, moi, je n'ai rien fait. Comment Dieu m'utilise comme ça, alors que les êtres prient pour beaucoup que moi? Je commence à penser que ce n'est pas de moi, ce n'est pas de Dieu. Oh, bien-aimé. Dieu ne fait pas de concurrence, des choses comme ça. Il fait ce qu'il veut. Et vous savez à cause de quoi? À cause de Jésus. À cause de Jésus. Ce n'est pas à cause d'un homme. Nous ne recevons que ce que nous croyons que Jésus a fait. Plus tu crois en ce que Jésus a fait, plus tu vas vivre cela. C'est notre choix. C'est notre part à nous. La foi. La foi. Ce n'est pas la foi en la quantité de prières que tu viens de faire, la foi en ce que Jésus-Christ a fait. Maintenant, c'est vrai! Pour avoir cette foi-là, il faut beaucoup prier. Pour justement que ça soit si évident dans la tête, il faut être en communion, comme l'apôtre Paul dit. je considère tout comme perte pour communier tout le temps avec Dieu, avec le Père, avec les souffrances de Jésus, comme ça je serai tout le temps dans la résurrection. Ah oui, pour vivre cette évidence-là de ce que Christ a fait, eh bien, il faut communier avec lui. Mais nous ne prions pas comme on nous avait enseigné pour recevoir la puissance. Nous ne prions pas pour être des grands prieurs. Nous communions parce que nous voulons être dans un état de fusion avec Dieu, dans sa mort, Jésus, et dans sa résurrection en même temps. Sans la prière, on ne peut pas vivre cette évidence-là. Pourquoi? Parce que le monde est rempli de choses qui nous enveloppent et qui nous empêchent de vivre la réalité de Dieu. Donc ces choses-là, ça nous enveloppe rapidement. Rapidement. Donc nous avons besoin de nous épousseter à tout moment. De nous épousseter. Si tu fais quelque temps, tu n'enlèves pas ces poussières-là, tu vas te retrouver en deux jours, c'est déjà une carapace. L'apôtre Paul nous le dit dans Hébreux 12. Rejetons le péché qui nous enveloppe facilement. Ça vient très vite. Nous avons besoin de la communion. Il n'y a pas que le péché. Il y a les plaisirs de ce monde. Il y a les propositions de ce monde. La gloire de ce monde nous enveloppe très vite. Nous avons besoin de prier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Être tout en communion pour nous épousseter. Que notre conscience soit claire par rapport à ce que Christ a fait. Nous avons besoin de cette évidence-là. Et plus on prie, plus, je ne parle pas de la prière pour être un fort dans la prière, de la prière pour connaître Dieu, pour expérimenter ses souffrances, pour c'est cette prière-là. Et quand tu pries comme ça, Dieu aussi va te envoyer des épreuves pour vérifier que tu pries vraiment la bonne chose. Et si tu pries et tu jeûnes pour te sentir fort, eh bien, tu vas voir que dans les épreuves, tu ne pourras pas accomplir Ésaïe 58. Hein. Ésaïe 58 dit, si tu jeûnes et tu pries, tu ne dois plus déranger les gens. Tu dois donner aux pauvres ce qui leur est dû. Tu dois être gentil avec les autres. Tu dois vivre pourquoi, ce pourquoi tu jeûnes. Mais combien de gens nous voyons qui jeûnent et prient, qui sont en train de critiquer. Oh, mais tu jeûnes et tu pries pourquoi? Tu jeûnes et tu pries pour ressembler à Christ, pour communier avec lui, pour mieux le connaître. Mais on les voit en train de parler chouchouchou. Moindre problème. Donc il passe 50% de son jeûne énervé. Oh, attends. Et pour se calmer, vous savez, il fait quoi? Zapping à la télé. Mais non, mais ça c'est quel jeûne ça? Le véritable jeûne, c'est travailler à ressembler à Jésus. Plus tu lui ressembles, plus tu le comprends aussi. Plus tu le comprends, plus tu es fort. C'est ça, bien-aimé. Tu sais ce qu'il y a dans ton compte. Tu sais. Et aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Il veut que nous saisissions ce qu'il a fait pour nous. Il veut que nous saisissions. Nous le comprenions. Et il veut aussi que nous l'imitions. Nous soyons comme lui. Lorsque nous voyons les autres faire des fautes, que nous puissions en faire notre affaire, considérer que c'est notre faute à nous aussi. Et nous les condamnerons plus, mais nous prierons pour eux. Nous dirons, bon, je fais comme Jésus, je prends ces fautes sur moi, je fais comme Jésus, c'est moi qui suis attaqué, mais pour sauver la personne qui m'attaque, on sera différent, bien-aimé. Qui pourra nous sortir de la joie? Qui pourra nous sortir de la paix? Personne. Mais si nous cherchons à faire les juges, ben nous n'aurons jamais la paix. Nous trouverons toujours les autres mauvais. Nous trouverons toujours les autres durs. Nous trouverons toujours les autres avares, acariates, tout ce qu'on veut. Nous trouverons toujours les autres pas au bon niveau. Mais si nous voulons ressembler à Jésus, nous allons trouver toujours les autres changeables. Et nous allons considérer que leur péché, c'est le nôtre. Et quand on considère que leur péché, c'est le nôtre, on a beaucoup plus de compassion pour prier pour qu'ils s'en sortent. Quittons l'esprit méritatif, méritoire, où on veut que, pour faire du bien à quelqu'un, il faut qu'il le mérite. faut qu'il soit suffisamment bon lui aussi. Il faut qu'il soit suffisamment pur lui aussi. Non, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Donc faites du bien à ceux qui ne le méritent pas. C'est là que vous allez ressembler à votre Père qui est au ciel, qui a fait du bien à ceux qui ne méritaient pas, qui a donné son propre Fils afin que les mauvais qui ne le méritaient pas soient sauvés. C'est ça le salut de Yahvé. Pour ressembler à ce Dieu-là, nous devons vivre la même chose que Jésus-Christ. Communier avec ses souffrances au jour le jour. C'est ainsi que la puissance de la résurrection se manifestera. Le Seigneur va le permettre. Oh oui, il y aura des gens qui vont dire toujours, mais oui, mais mes souffrances continuent. Les souffrances maintenant qu'on peut vivre après que Jésus-Christ se soit installé en nous, n'ont que des objectifs bons. L'un des objectifs, c'est augmenter notre foi. C'est nous amener à faire le point sur nous-mêmes. Est-ce que nous croyons vraiment en ce que Jésus-Christ fait? Le deuxième objectif, c'est de nous calmer. Parce que si sans la tranquillisation par les épreuves, beaucoup d'entre nous vont se retrouver en enfer à cause de l'orgueil. Parce que la gloire de Dieu qui vient sur nous, quand on le sert, quand on est avec lui, est tellement immense que si il te calme pas par les épreuves, par les insuffisances, faiblesses provoquées par lui-même, nous allons tous tomber dans l'orgueil et nous allons finir très mal. Le but de la souffrance après Jésus dans nos vies, c'est nous éduquer, nous empêcher de prendre la place de Dieu. C'est nous faire rappeler toujours que nous sommes des humains. C'est ça le but, à tel point que le Seigneur a mis quelque chose dans la vie de Paul pour qu'il soit toujours faible, qu'il se rappelle qu'il est un humain, parce que Dieu faisait tellement de choses grandes avec Paul que c'est vrai, même nous parfois qui lisons la Bible, nous avons tendance à faire de Paul presque un égal de Jésus, tellement Dieu a fait de grandes choses avec lui. Dieu lui a donné des révélations puissantes, fortes. Et Dieu est conscient que la chair humaine ne peut pas accepter une telle gloire sans qu'elle tombe dans l'orgueil. Alors Dieu a mis quelque chose dans la chair de Paul pour l'empêcher de tomber dans l'orgueil. Donc certaines souffrances après Jésus ont ce rôle-là, nous empêcher de s'accaparer la gloire de Dieu et de se proclamer nous-mêmes Dieu, d'une manière ou d'une autre. On ne va pas dire « je suis Dieu », mais ton comportement va donner l'impression que tu es Dieu, pour toi-même. Et Dieu a bloqué Paul, parce qu'il a vu que la gloire qu'il lui avait donnée était très grande, qu'il ne pouvait pas la supporter de lui-même. Il fallait le calmer par quelque chose. Et Dieu permettra des souffrances, des épreuves, pour nous calmer, parce que sa gloire est immense. Et qu'est-ce que donc nous avons besoin de faire quand il y a des souffrances, quand il y a des sujets de prières qui ne sont pas encore exaucés? Nous devons, puisque nous sommes sûrs du crédit de notre compte, comme nous sommes sûrs, nous devons aller vers le banquier, lui dire, mais pourquoi tu ne me sors pas ce qui est de mon compte? Et le banquier, c'est le Père. Nous allons dire, mais Père, ça fait un moment que j'ai pris pour telle chose. Pourtant Jésus-Christ a payé à ma place. Pourtant Jésus-Christ a souffert à ma place. Pourquoi tu ne m'exauces pas encore? Et le Père te révélera. Est-ce que c'est un moyen de te garder dans la sécurité de l'humilité? Est-ce que c'est un moyen? Est-ce qu'il y a un problème dans ta vie qui bloque? Dieu te révélera parce qu'il est obligé. Il est obligé par lui-même, parce que son fils a fait sa part du contrat et le Père va faire sa part du contrat. Il dit qu'il est fidèle. Puisqu'il est fidèle, donc il est obligé par lui-même de nous expliquer. Et s'il ne nous explique pas, ça fait partie encore du travail par rapport à la foi, qu'on puisse croire sans voir, et ça fait partie de notre maturation spirituelle. Bien-aimés, ne soyons plus dans la peur ni déstabilisés. par rapport au projet que tu as avec nous, par rapport au projet que nous avons avec nos familles, par rapport au sujet de prière que nous adressons au Seigneur, soyons sûrs, Jésus-Christ a tout accompli. Il a pris sur lui. Il a pris sur lui. C'est pourquoi la Bible dit avec assurance, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit, Jésus dit dans Jean 10, il dit, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Entrez par moi et vous êtes bien. Entrez par moi, venons au nom de Jésus-Christ. Ne venons pas au nom de nos mérites. Ne venons pas au nom de notre pasteur. Ne venons pas au nom de notre église. Venons au nom de Jésus. Je suis la porte des brebis, dit Jésus. Je suis la porte. Entrez par moi. Venez avec mon nom. Vous allez voir. Je suis la porte. Bien-aimés, entrons dans la communion véritable avec le Seigneur. La communion à ses souffrances. Et nous verrons réellement nos vies transformées. Mieux nous comprendrons ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi les chants des réveils, c'est toujours des chants liés à la mort de Jésus, à son sang qui a coulé. Aujourd'hui, on nous fait des chants qui ressemblent à des Maria Carré, des choses comme ça. Ça ne produit même pas de puissance. Ça fait danser les gens. Des trucs... Mais le vieux chant, c'est « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, bien-aimé. » Ça, c'est le chant. « Quel sauveur merveilleux je possède, attaché à la croix pour moi. » Ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas mauvais de dire « Dieu, tu as des yeux comme des perles, tout ça, bon, mais... » Il n'y a pas de problème, mais... Revenons aux meurtrissures de Jésus. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit dans Apocalypse 5, quand l'agneau est entré en scène, la Bible dit l'agneau de Dieu. Nous allons clôturer par ça. L'agneau, pourquoi on l'appelle l'agneau? Comment on peut appeler quelqu'un qui est Dieu? On peut l'appeler l'agneau parce que c'est son titre de gloire, le titre de souffrance. Apocalypse 5, pour clôturer. Verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre de la colère de Dieu. Parce que c'était le livre de la colère de Dieu. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Personne ne pouvait affronter la justice de Dieu. Personne. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, oh la porte des brebis, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, comme si le sang coulait encore. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite et celui qui était assis sur le trône. De celui qui était assis sur le trône, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. et leur nombre était de myriades et de milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia Seigneur, nous venons t'adorer, l'agneau de Dieu. Nous venons adorer notre papa qui nous a tant aimé, qui t'a donné comme cadeau, afin que tu payes à notre place, Seigneur Jésus. Nous venons te célébrer, oh mon Dieu. Nous venons t'adorer, te louer, te confier notre vie. Nous ne sommes plus dans la peur, Seigneur. Nous ne sommes plus dans l'inquiétude. Alléluia. Oh, Shanda Balabasanda. Bien-aimé, n'aie plus peur. Jésus a vaincu.